Biston klack, biston klack, biston klack. Nous aimons la chanson française. Biston klack, mais nous détestons les fadaises, qu'elles soient françaises ou javanaises. La balourdise, ça nous défrise. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, se mêle l'apôtre. Cette phrase est notre devise. Notre devise, biston klack, biston klack, biston klack. D'accord pour les chanteurs, poètes. Biston klack, né dans le Rhône ou à Perpète. Suffit qu'ils mettent nos cœurs en fête. La poésie n'a pas de patrie. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, ce bel apôtre. Voilà notre philosophie. Philosophie. Biston klack, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack.
C'est l'histoire d'un homme amputé, mal formé, un fauve éborgné qui n'a plus son cachot. Il traîne comme une poubelle de l'âme qu'il faut remplir de détresse. Craignez, craignez l'histoire d'Orphée. Voici Orphée déraciné. Si vous n'y croyez pas, vous le verrez peut-être à la fin des concerts, quand les copons se taisent et lèvent leur bière en s'écroulant par terre. Oh, 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 oh yeah, oh yeah. Oh, 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 oh yeah, oh yeah. Un homme sans avenir, au passé douloureux, son passé douloureux qu'il trouvait merveilleux. Quand Orphée était petit, Orphée était mignon. C'était le pauvre petit enfant de plâtre. Aujourd'hui c'est fini, Orphée est un vampire. Aujourd'hui c'est fini, ne croisez pas sa route.
Comme toi ils m'ont serré, comme toi ils m'ont enfermé. Ils ont coincé nos têtes et nos corps de rigidité. Ces saloperies de corset, je te les enlèverai. Je me loverai dans ton corps, étreignant tes ongles cassants. Wow. Je t'emmènerai au-delà de l'enfer, où tu te trouves, et au summum du sommet, tous les deux, je te dirai, regarde. Je ferai respirer ton corps d'ange, tes seins gonfleront ainsi soulagés. J'humecterai de mes lèvres le corps que tu n'as pas connu, une main derrière la tête, un bras sous les genoux. Wow. Et tu te regarderas de nouveau, tu regarderas ton corps que j'aurais adoré. Et tu te réveilleras des tiges de métal et des sangles trop serrées.
Bonsoir. Notre émission de ce jour est consacrée à un essai radiophonique qui s'intitule « Ce que nous sommes ». Essai réalisé cette année, au mois de juin, par Rémi Gendarme. Alors, cet essai a une particularité, donc ce n'est pas une création de Radio Canu, mais c'est une création que Rémi Gendarme a voulu confier à Radio Canu pour qu'il le fasse connaître s'il pensait que ça en valait la peine. Et je crois que ça en vaut complètement la peine, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte tout à l'heure. Alors, le thème de cet essai, de cette pièce, finalement, ça pourrait presque être une pièce de théâtre, du moins dans la forme livresque que j'ai sous les yeux, c'en est une aussi, avec 8 ou 9 scènes. Et puis, un peu de la musique. Ben, la musique, c'est ce que vous avez entendu pour commencer cette émission, je vous ai proposé deux morceaux. L'un s'intitule le bien nommé Prologue et le deuxième commence par Comme toi ils m'ont serré. Il y a peut-être un autre titre que je ne connais pas. Les paroles sont de Rémi Gendarme, la musique est de John Corbeck et interprétation de John Corbeck en skak. Un groupe de musique qu'on réentendra aussi dans l'essai radiophonique. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'une mise en forme d'un essai sur le thème de la sexualité des handicapés, de la difficulté d'avoir une vie sexuelle quand on est handicapé et des différentes modalités que les institutions en proposent. Et je crois pouvoir dire, après m'être entretenu avec Rémi Gendarme, qu'il a une vision passablement décalée par rapport à ce que proposent les institutions, et c'est ce qu'il a voulu faire apparaître dans son essai radiophonique. Alors, il devrait être là à l'antenne avec moi en duplex téléphonique depuis Angoulême, hein, puisqu'il n'est pas lyonnais. Mais un incident, petit accident même, on peut dire, est survenu qui fait que à 20h, il ne pouvait pas être à côté de son téléphone. Si tout va bien avec un peu de chance, par contre, il sera avec nous à la fin de cet essai qui dure une trentaine de minutes. Je le rappellerai, et s'il a pu rejoindre son téléphone à ce moment-là, il pourra nous en dire plus et commenter le travail qu'il a réalisé avec toute une série d'acteurs et de musiciens, puisque vous allez le voir, c'est une mise en scène radiophonique qui vous est proposée dans cet essai. Non, moi je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir à l'écoute ce document qui est tout à fait intéressant et peut-être surprenant pour certains d'entre vous, mais voilà ce que nous sommes de Rémi Gendarme.
Voilà, comme ça. Un peu plus...
Comme ça.
Non, non. Ah, chut.
Eh bien, voilà.
Oh, putain.
C'est du propre. On s'amuse bien? Jean-Mi, t'avais raison, c'est Yago.
Vous faites chier, hein, vous faites rien.
Oui, tu diras ça au directeur. Et cette fois, bon courage. C'est pas du 23h10. Le règlement, tu le connais? Tu le connais?
Ouais,
bon. Tu dégages dans ta chambre. On est des AMP, nous. On n'est pas là pour pister vos conneries à 2h du matin.
Mais...
J'ai pas mon fauteuil. Hein.
C'est pas plutôt un seau d'eau froide que t'as besoin? Allez, prends tes béquilles, casse-toi. Et dans 5 minutes, t'es dans ta chambre. Et Lucrèce, excuse-moi, mais je crois qu'il y en a une qui va être contente, hein?
De qui elle parle?
Laisse tomber.
Je m'en vais. Je te remonte la couverture?
Non, laisse tomber, me touche pas. Va-t'en.
Bon. Ben, à demain alors.
Ce que nous sommes, de Rémi Gendarme.
C'est l'histoire d'un homme amputé, mal formé, un fauve éborgné qui n'a plus son cachot. Il traîne comme une poubelle de l'âme qu'il faut remplir de détresse. Craignez, craignez l'histoire d'Orphée. Voici Orphée déraciné. Si vous n'y croyez pas, vous le verrez peut-être à la fin des concerts, quand les copons se taisent et lèvent leurs bières en s'écroulant par terre. Oh, 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 oh yeah, oh yeah. Oh, 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 oh yeah, oh yeah. Un homme sans avenir, au passé douloureux, son passé douloureux qu'il trouvait merveilleux. Quand Orphée était petit, Orphée était mignon, c'était le pauvre petit enfant de plâtre. Aujourd'hui c'est fini, Orphée est un vampire. Aujourd'hui c'est fini, ne croisez pas sa route.
En plus, je te jure, elle a écrit en rouge sur le cahier des transmissions. J'en revenais pas.
Pétasse. J'aurais dû attendre que ce soit toi qui fasses la nuit.
Qu'est-ce que tu vas faire?
Je vais fumer une clope et après j'irai pisser.
Mais non, crétine, pour hier soir.
Bah rien. De toute façon, c'est pas la première fois que Marie-Claudine me casse les couilles.
Et pour ta mère?
Tu me donnes mes baguettes, s'il te plaît? Elles sont là dans le tiroir.
J'en fais quoi?
Tu prends la clope et tu la coinces entre les deux bouts. Comme ça, je peux fumer et tu peux t'en griller une aussi.
Si c'est toi qui me demandes.
Ma mère, je m'en fous, elle passe à midi et je lui dirai rien. Je vais aller négocier avec Jaber pour qu'il ne lui en parle pas.
Tu peux négocier, mais cette fois, c'est pas un petit tour en ville que t'as oublié de signaler. Et puis, c'est Yago.
Bon, lui, je m'en fous. Tu crois qu'ils vont en parler à ma mère?
Je ne sais pas du tout.
Même si je veux pas?
Je ne sais pas.
En fait, j'ai trop envie de pisser. Tu peux m'aider?
On y va. Attends, ça fait 3 semaines. Je te mets sur le lit d'abord, n'est-ce pas?
C'est ça.
Ah, eh ben, t'as pas grossi.
Tu peux tirer mon t-shirt au niveau de la hanche? Mon corset me fait mal.
Ouais, attends. C'est bon, le 8, je travaille pas. On peut aller voir Tarbac.
Ah cool, ça va me faire du bien.
Au fait, avec Yago, c'était mignon.
C'est pas vraiment le mot, non? Mais comment vous savez ce que vous avez? Attends, c'est quoi? Non, oh merde, c'est ma mère, elle a les clés, habille-moi vite.
Oui. Oui, je suis en entretien, là. Oui, bah, il rappelle. Oui, je disais que ce mode de vie, hein, se confronte parfois à, je dirais, une certaine inertie de l'institution.
Ouais, des fois.
Mais t'as raison, Lucrèce, hein, et c'est pour ça que je dis que tu contribues à faire bouger les choses. Justement, on en a beaucoup parlé en équipe. Et pour te dire que tes demandes ne sont pas incongrues...
Mais j'ai fait aucune demande.
La loi du 12 février 2005 va complètement dans ton sens. C'est pour ça que j'ai proposé à Monsieur Vincent de participer à cet entretien. Il est assistant... Assistant, comment vous dites?
Assistant au toucher et contact sensuel. On intervient dans le cadre du projet pilote mené par le collectif...
Ouais.
Oui, Monsieur Vincent est un professionnel qui intervient auprès des institutions qui en font la demande.
D'accord.
Voilà. Monsieur Vincent est disponible pour intervenir sur un cycle de plusieurs séances.
Ouais, d'accord, mais je comprends pas. Pour former Marie-Claudine?
S'il te plaît, fais pas ton adolescente. T'es ici depuis 4 ans, tu connais le règlement intérieur. T'as aucune idée de la situation de porte-à-faux dans laquelle tu me mets moi, ainsi que toute l'institution. C'est vrai, Lucrèce, et je te le dis souvent, T'es l'une des résidentes de l'institution les plus exigeantes en termes de choix de vie. Mais est-ce que tu penses une seule fois aux conséquences de tes exigences?
Il vous attend dans le...
Dites-lui de repasser dans l'après-midi.
Bien.
Alors de la légitimité de ton désir, ça, nous le défendrons près de ta mère. Ça, je m'y engage. Ce que propose Monsieur Vincent, c'est de... C'est peut-être mieux que je vous laisse expliquer.
Oui. Nous sommes une équipe d'assistants formés auprès de personnes en situation de handicap pour aider ceux qui ne savent pas ou qui ne peuvent pas accéder au plaisir corporel.
Mais je comprends pas, vous faites quoi?
Eh bien, au cours de nos séances, nous pratiquons des massages, des caresses, enfin tout dépend de la demande et du besoin. Mais Lucrèce, que tu comprennes bien, je n'exerce aucun contact physique dès la première séance.
Mais... Enfin, j'ai pas besoin de votre aide pour me toucher, moi.
Non. Nos pratiques ne se limitent pas à une aide à la masturbation. Ce que tout le monde doit comprendre aujourd'hui, c'est que les personnes handicapées sont des êtres humains comme les autres, et que accéder à la sexualité est un droit fondamental. Bon, Lucrèce, ce que je te propose, c'est d'abord de se rencontrer, juste pour discuter, comme ça, pour que justement j'apprenne à te connaître. Tu pourras ensuite faire appel à moi pour des séances de contact sensuel que nous aurons élaborées ensemble.
Non mais ça va! Je veux dire, j'ai pas besoin d'une pute, c'est ça que vous me proposez, une pute? Ou alors un éducateur de cul pour me formater? Ça va, si c'est pour en parler à 12 avec Marie-Claudine en réunion de synthèse, je préfère rester pucelle.
Monsieur Vincent n'est pas un prostitué. Hein, sa formation comprend tous les impératifs de confort et de sécurité relatifs à la situation de handicap.
Oui, et de toute façon, je ne peux pas tout proposer. Je suis quand même un professionnel.
Lucrèce, tout ne va pas se régler tout de suite. Mais c'est une proposition alternative à ton exclusion, qui, me semble-t-il, n'est pas du tout dans ton intérêt. Hein ?
Des soins pour les handicapés, des prisons pour les crimes, des asiles pour les fous. Allez-y, cadrez, murez, 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 autonomisez. Mais moi, je vous emmerde, je m'en fous, je ne veux plus de votre bien, je n'aimerai que mes courbes.
C'est malin, ça. Ben moi, à 24 ans, j'étais pas pucelle.
Oh, la pétasse! Tu l'auras voulu. C'est vrai, j'ai pas eu la chance de connaître ça en 5e, dans l'ascenseur du collège Saint-Étienne.
Ouch! Bon, on va arrêter, hein. Oui, je crois. Ça vaut mieux pour toi. Moi, je vais chercher des bières.
Hé, attends, c'est lui! Lâche-moi! Tout ça, ce fauteuil! C'est là, pourtant! me pousse hors du chahut. Connard. Connard.
Connard ! Connard, lâchez le gros malade ! Qu'est-ce que vous faites ? Mais... Monsieur Vincent ?
Mon nom, c'est Orphée.
Merci.
Ok, tu m'expliques cette histoire d'assistant sexuel ? C'est quoi ton délire ?
Tiens.
Ouais, non, c'est...
Bah quoi ? C'est mon boulot.
D'accord, mais tu fais quoi exactement dans ton travail ?
Je me rends service, je suis là. Attends, tiens, je vais...
Ouais, c'est ça, mais tu prends ton pied ou pas ?
Non, pas. Oui. C'est un métier, hein. Je suis là pour le plaisir de l'autre.
Et donc l'autre, il te demande, par exemple, si un mec veut que tu le suces, il te le demande et tu le fais.
Mais non, on n'a pas le droit. On n'est pas là pour remplacer une relation amoureuse.
Mais c'est pourri ton truc. Toi, tu prends ton pied ?
Ça dépend. C'est pour ton plaisir que je suis là.
Ah ouais, d'accord, c'est très clair. T'es pas un gigolo, mais t'es pas là pour être amoureux. T'es un robot, mais pas trop quand même.
Oh, attention, il faut laisser passer.
Mais non, mais tu peux être content de découvrir des trucs que tu connais pas.
Moi, ce que j'aimerais, c'est faire les choses de moi-même. Tu comprends ? Pas qu'on m'aide à prendre du plaisir. Décider.
Moi, j'aimerais bien te faire plaisir.
Et pourquoi t'es là ?
Les concerts, je peux venir et personne n'en a rien à foutre de mon dos.
Ah, c'est pour ça que tu montes sur scène et pour danser devant tout le monde ?
Ouais, et toi, pourquoi tu t'es mise devant ?
Ouais, c'est clair, tu danses bien, mais comment t'as eu ça ?
Je te porte. Tu vas voir, je sais faire.
Non, attends, je sais. Tu vas dans le lit avant moi, avec moi dans tes bras. Je sens les quelques côtes qu'il te reste. Je sens ta peau pleine de sueur et de bière.
Je sens mes côtes. Et je sens ta peau.
Je ne croyais pas que j'aimerais la bière.
Je sens l'intérieur de ta main.
Un peu moite.
Mes doigts marchent le long de ton bras.
Ta main caresse mon cou et je l'embrasse quand elle passe devant ma bouche. Maintenant, tu dévisses mon corset. Je voudrais t'avoir tout près de ma bouche.
Mais tu m'as.
Plus près.
Ça y est.
Tellement près que je puisse, sans bouger la nuque, t'embrasser moi-même. T'embrasser seulement si je le désire.
Comme ça ?
Oui, comme ça.
Alors ?
Je ne le désire pas. Pas encore.
Très bien.
Mes bras imaginaires défont ton pantalon. Tu vois la grande ours ?
Oui. Sur ta cuisse, les grains de beauté, c'est la grande ours.
Prends ma main. Ma main imaginaire qui s'échappe de ma main réelle et qui remonte jusqu'à ton épaule.
Je la sens.
Elle remonte jusqu'à ta nuque et redescend le long de ton dos. Elle caresse les côtes que tu n'as plus et longe ta grande cicatrice.
Je la sens pincer ma cicatrice.
J'embrasse toutes les anciennes escarres de ta peau de plâtre.
Et toutes les marques de ton corset qui me donnent un chemin.
Elle redescend entre tes cuisses et caresse tes couilles.
Ta main imaginaire me serre fort. Je me colle à toi.
et je te sens respirer.
Je respire avec toi, tout près de ta bouche et de tes couilles.
Nos bouches respirent ensemble. Nos peaux respirent ensemble.
Nos cicatrices se croisent, nos déformations s'emboîtent.
Comme à Tétris ?
Oui, comme à Tétris.
Serre-moi.
Oui, avec mes lèvres, avec mes seins, avec mes bras imaginaires.
Avec les lèvres de ta bouche, avec les seins sans ton corset. Avec tes bras que je ressens,
avec tes bras que je ressens, avec toutes tes cicatrices.
Je veux te serrer avec les lèvres de mon ventre. J'enlève ton caleçon à rayures vertes.
Non, je ne le peux pas.
Pourquoi, Orphée ? Je te désire à présent. Hé, hey, Orphée, t'es où, là ? T'es où, là ? C'est ton protocole, c'est ça ? Ta distance professionnelle à la con ? Mais réveille-toi, sale connard, t'es dans mes bras, là. T'es dans mes bras imaginaires, pas dans ton protocole de merde.
Je ne peux pas.
Mais putain, tu bandes, c'est quoi ce délire ? Il est 6h du mat, tu n'es pas au boulot, là ? Qu'est-ce que vous voulez, là ? Bien me montrer que tout est à vous ? Mon appart est à vous ? Ma vie est à vous ? Mon corps, ça je le sais depuis longtemps. Mais même mes envies ? T'y crois ça, Orphée ? Mais non, j'y crois pas. Qu'est-ce que tu cherches là, sale pervers ? Les envies, ça te fait bander, c'est ça ? Dégage, j'ai pas besoin de toi.
Tu n'as pas besoin de moi.
Tout à l'heure, sur scène... Tu vois pas que c'est mon corps que tu rendais libre en dansant torse nu, avec ton dos en parpaing ?
Tu n'as pas besoin de moi.
Mais non, putain, tu vois pas que ça m'enferme, encore plus que toi quand t'étais petit ?
C'était pour mon bien.
Ouais, peut-être, mais je sais pas, après tout, ton protocole, ton contact sensuel, ta distance à la con, c'est comme les bandes de plâtre qui voulaient te redresser, te cadrer, tu vois pas ça ?
Je vois un peu.
Mais oui, les 6h du matin... Mon bras imaginaire, tu l'as senti. J'ai embrassé tes cicatrices.
Tu n'as pas besoin de moi.
Non, mais j'ai envie de toi. Et toi ?
Je ne sais pas. Tes cuisses fragiles, je veux les toucher, je veux les soulager.
Touche-les, il n'y a rien à soulager.
Je sens la grande ours.
Mes seins blancs et mon corset plongent dans ma grande ours.
Je plonge, je sens les lèvres de ton ventre.
Je déchire tes cicatrices.
Tu déchires, elles sont devenues douces et sensibles au contact de tes lèvres.
C'est pas vrai, c'est un vrai bordel cette...
Ah, c'est vous, monsieur Vincent. Excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez en séance. Mais attendez, il est 6h du matin. Vous n'avez pas une salle libérée pour votre travail ? Oh ! Vous êtes tout nu ? Mais votre dos ? Mais vous arrivez à tenir debout avec ça ? Mais qu'est-ce que vous faites ?
Mais bordel, ça me saoule ! Je vais plus me prendre la tête ! Les problèmes se déchaînent et m'enchaînent et je peux plus bouger. J'ai décidé de me foutre une bonne fois de leur gueule de rat. Maintenant je suis libre et j'appartiens au loup. Je fais ce que je veux, quand je veux et où je veux. Et le premier qui veut me mettre les menottes, je vais dans sa soupe, je dégueulerai sur ses chiens. Je vais donner juste dans son anus. J'interdis quiconque de me prendre la tête. Ma vie sera une fête, un immense bordel. J'inviterai des crabes à venir danser. Allez, danse la cigale, oublie que tu es tale. Danse les gargouilles, s'éclatent les gremlins. On a peu de les chefs qui sont venus ce soir. Alors qu'il est bien tard, on va tout faire péter.
Attends, j'ai quelque chose à dire. Écoute, s'il te plaît, écoute-moi, s'il te plaît. Allez, viens. On boira de la bière jusqu'à ce qu'elle nous enferme. Enterrés morts sous la terre, des insectes mangeront nos corps. Et dans nos sangs tellement d'alcool pour...
et vive l'amour. Je veux t'aimer comme l'âge, aime le petit poussé comme...
Avec Anaïs Sadowski et Thierry Lefeuvert. Avec Regina Volk et Catherine Amiot. Avec Jean-Charles Régonesi et Daniel Crumb. Avec la présence stupéfiante de Denis Bourgeois, Quentin Ménard et Lucille Cordonnier. Avec les anciens punks, les reconvertis à l'informatique, les charentais d'occasion et angoumoisins profonds, avec le cœur qui bat d'un public de concert imaginaire. Avec les chants de John Corbeck et Cac, écrit et réalisé par Rémi Janda. Assisté à la prise de son, au montage et à la vie par François Guérin. Merci mon pote. Le son est pris par Irène Hervois et Marcella Lopez Romero. Prise de son additionnelle faite par Sonia Le Glen, Chloé Truchon, Nicolas Glorieux et François Guérin. Assisté par l'expérience et le savoir-faire de Guy Seno. Les paroles et chansons sont de Rémi Gendarme. Les musiques sont écrites par John Corbeck et orchestrées par Joanne Gardré. Les plus profonds remerciements vont à Marie-Annick Bello ainsi qu'à toute l'équipe du Master 1 Créateur. Denis Bourgeois, Thierry Dilger, Patrice Bidot et Catherine Amiot. Merci aussi à Catherine Lafont et Sarah Hérault. Cette fiction radiophonique est particulièrement dédicacée à Maria Terrio et Vanessa Pasco. C'était ce que nous sommes est plus grand que ce que nous espérons. Angoulême Créadoc Master 1, juin 2011.
Voilà, vous venez d'entendre un essai radiophonique qui s'intitule donc « Ce que nous sommes » par Rémi Gendarme. Il est avec nous en duplex téléphonique maintenant. Bonsoir.
Bonsoir.
Et bien, nous allons pouvoir, pendant le reste de cette heure d'émission, converser autour de ce travail que vous avez réalisé. Je crois qu'il serait bien que vous nous présentiez dans quel contexte il a été fait.
Oui, d'accord.
Je voulais noter...
D'abord, merci de m'avoir appelé aussi rapidement après la réception de mon travail pour me proposer cette émission. Alors, pour vous répondre, cette fiction a été terminée, comme indiqué, au mois de juin dernier. C'est le travail final de ma première année de master professionnel au Créadoc Angoulême. traité consacré entièrement au son. Donc, il y a eu à peu près 5 semaines d'écriture, de scénario, pour 6 semaines de réalisation, avec l'aide donc, de plusieurs intervenants. C'est un travail individuel, c'est-à-dire que chaque étudiant a eu à faire son propre travail, entre 20 et 30 minutes, hein, à peu près. Et moi, s'il y a d'autres...
Individuel, mais vous êtes une bonne douzaine à intervenir en finale sur le travail. Individuel au niveau de l'écriture, vous voulez dire ?
Eh bien, individuel au niveau de l'écriture, de la réalisation et du montage. C'est-à-dire que il y a plusieurs intervenants, évidemment, à partir du moment où c'est une fiction, même en documentaire d'ailleurs. Il y a plusieurs acteurs, il y a évidemment plusieurs personnes qui aident. Et la prise de son, imaginez qu'on était 15, donc 15 projets différents, et à chaque fois, on prenait le son d'un camarade, par exemple. Donc là, il y avait quelqu'un qui me prenait le son, et en fait, il y a eu 2 personnes à prendre le son. Il y a eu Irène et Marcel.
Les comédiens, entre guillemets, c'est des autres élèves de votre promotion, ou c'est des gens complètement extérieurs à votre formation?
On avait quelques comédiens professionnels qui intervenaient bénévolement pour faire des personnages de nos travaux, mais beaucoup d'étudiants de la promo ont été comédiens. D'ailleurs, le comédien qui interprète, la comédienne qui interprète le personnage de Lucrèce est une étudiante de la promo. Qui m'a complètement heureusement surpris par sa prestation. Je me doutais que ça irait, mais à ce point-là, je m'en doutais pas. Parce que j'ai trouvé excellent.
Alors, c'est un documentaire ou c'est une fiction?
Eh bien, d'abord, je vous poserai la question de la différence entre un documentaire et une fiction.
Ah ben, a priori, un documentaire, c'est un document réalisé, un reportage sur des faits réels qui se déroulent. D'une fiction, c'est une histoire qu'on invente, qui peut ressembler à des faits réels, mais qui ne n'en sont pas, on va dire.
Ben, évidemment, les personnages ne sont pas absolument réels, au sens où il y a des acteurs qui ont un texte et qui l'interprètent. Idem pour le montage, il n'y a pas de, concert, de vrai concert. Il y a un musicien qui m'envoie un morceau, moi qui fais venir du public, qui diffuse des morceaux, etc. Et qui fait jouer des comédiens. C'est une fiction.
C'est une fiction. Une autre manière de poser la question, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes attaché à restituer des situations vécues, ou c'est plutôt pour faire avancer une thèse, votre thèse, que vous avez imaginé ces situations?
Eh bien, ça, c'est un documentaire. Ouais. C'est-à-dire que, évidemment, qu'il y a un vécu, en arrière-fond, un vécu personnel, d'abord. J'ai eu l'occasion dans ma vie de vivre 3 ans en institution de personnes en situation de handicap pour les études. Je suis même moi-même non seulement en situation de handicap, mais en plus je m'intéresse un peu plus à la question et donc cherche à me confronter à d'autres vécus, d'autres histoires. Donc voilà, en soi j'ai un vécu et en plus j'ai un intérêt. Évidemment il y a une grosse part fictionnelle, c'est que je doute vraiment qu'il y ait une institution en France qui d'un côté interdise formellement à 2 résidents d'avoir une relation amoureuse et de l'autre côté, pour justifier leur choix et leur interdiction, propose un accompagnement sexuel. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a d'un côté des institutions où 2 résidents n'ont absolument pas le droit, même s'ils sont majeurs, même s'ils vivent ensemble, enfin, même si le couple est avéré et confirmé par eux, n'ont absolument pas le droit de dormir dans la même chambre. Et par ailleurs, il y a des institutions où des professionnels demandent à corps et à cri la mise en place en France d'une loi dépénalisant les institutions de faire intervenir des accompagnateurs sexuels, puisqu'aujourd'hui, c'est impossible, l'institution est accusée de proxénétisme. Ça s'arrête.
Mmh. Oui, ça c'est une partie aussi importante de votre vision quand vous avez fait cet essai, je pense, c'est de faire apparaître un certain décalage entre les aspirations des personnes concernées vivant dans ces institutions et ce que leur proposent les institutions. Vous pouvez peut-être développer un peu cette vision, enfin ce que vous avez voulu promouvoir en faisant ce travail par rapport à ce qui est proposé habituellement.
Veuillez m'excuser, j'ai mal entendu votre
question. Oui, bon, on va la reformuler. Hein. Je veux dire, je pense qu'une partie de votre travail, c'était aussi de vous positionner par rapport aux institutions et à ce qu'elles proposent. Et vous pensez, vous, qu'il y a un décalage entre ce que les personnes vivant dans ces institutions ont envie de vivre, de faire avec d'autres, et ce que les institutions sont prêtes à leur proposer. Quoi.
D'accord.
Hein? C'est ça que je vous demandais de développer un petit peu pour les auditeurs, préciser.
Pour vous répondre, je dois remonter un tout petit peu en arrière. Mmh. En 2005, on a une loi sur le handicap qui rénove en fait l'ordonnance de 75. C'est-à-dire que depuis 75, il n'y avait pas eu de nouvelle loi à propos du handicap. Ainsi, cette loi qui est énorme, à un endroit, avec un tout petit alinéa, parle de la vie intime, en expliquant que la personne handicapée doit pouvoir avoir accès à une vie intime décente. Je précise que je n'ai pas le texte de la loi sous les yeux, évidemment. Ainsi, à partir de là, beaucoup d'associations, il y a un collectif qui est créé, qui s'appelle Handicap et Sexualité, qui est créé pour réfléchir à cette question. Mais il y a un gros travail de lobby qui est fait par plusieurs personnes professionnelles ou usagers handicapés pour pointer du doigt l'impossibilité pour une institution de faire intervenir des travailleurs sexuels et faire un travail de lobbying pour permettre la création d'accompagnateurs sexuels. Alors, pour répondre à votre question, ce que j'ai tenté de dénoncer dans mon travail, c'était globalement la mainmise institutionnelle, c'est-à-dire la volonté il y a dans la loi de 2005, qui par ailleurs apporte beaucoup de choses positives, de dénoncer la volonté d'encadrer entièrement et totalement la vie des personnes handicapées concernées. À mon avis, l'accompagnement sexuel est une demande avant tout de professionnels qui se sont retrouvés en difficulté face à certains problèmes dans la vie d'usagers. Et donc, veut reléguer ces difficultés en introduisant l'idée d'un métier spécifique. Alors qu'à mon avis, le problème n'est pas tout à fait là. Il ne s'agit pas, par exemple, de développer une réelle éducation sexuelle auprès du public handicapé, ou de développer une réelle autonomie, indépendance, qui permettrait à toutes les personnes, y compris handicapées, de vivre une vie sociale épanouie, et donc d'avoir accès à une vie affective à peu près normale. D'après moi, le corps et le corps défaillant n'a en fait pas grand-chose à voir avec la vie sentimentale, intime et sexuelle. Il peut y avoir des choses à voir, mais dans ce cas-là, c'est d'autres problèmes. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Ben, vous touchez enfin, de la question de près, quoi, bien sûr. Et moi, je me demandais, dans ce contexte d'aide aux relations sexuelles, au plaisir sexuel, si à un moment donné, assez facilement, vous n'alliez pas buter sur le problème de la sentimentalité, on va dire de l'amour, quoi, le fait que d'avoir une relation intime avec quelqu'un appelle à avoir des échanges affectifs et que finalement c'est peut-être là où les deux points de vue de l'aidant et de l'aidé vont diverger et où ça pourra engendrer de la souffrance, quoi, aussi.
Bien sûr. Il y a plusieurs choses. D'après moi, je tiens à dire que je parle sur un point de vue absolument personnel. Mmh. Je ne représente aucune parole associative ou militante autre que la mienne. D'après moi, il y a un malentendu assez énorme. Il faut que je vous parle un petit peu de ce qu'est l'idée de compensation. C'est-à-dire que pour une personne handicapée, par exemple, quelqu'un qui a un handicap et qui ne marche pas, uniquement qui ne marche pas, qui n'a pas de jambe, par exemple. Eh bien, quelqu'un qui n'a pas de jambe ne peut pas marcher et donc ne peut pas se déplacer. S'il y a un fauteuil roulant électrique, elle ne pourra toujours pas marcher, mais elle pourra se déplacer. C'est comme ça qu'on peut parler de compensation du handicap. Le handicap, à ce moment-là, n'est plus un handicap. Il y a juste un handicap qui touche d'autres problèmes, mais en tout cas, la personne peut vivre une vie à peu près normale si tous les aspects de son handicap sont compensés par une aide technique et humaine. Mmh. La problématique de l'accompagnement sexuel prend son appui sur la compensation de la vie affective et sexuelle, avec le sous-entendu qui est non dit, évidemment, que des personnes handicapées ne pourraient pas avoir accès à cette vie intime et sexuelle. Or là, il faut bien revenir à l'aspect matériel de la compensation. Je suis obligé de parler un peu concrètement, mais si une personne handicapée, par exemple, a un accès difficile à son propre corps, rien n'indique que la vie intime, ou sexuelle, ou amoureuse, lui est interdit. En gros, personne ne lui interdit formellement. Mmh. Elle aura de grosses difficultés à, par exemple, accéder à la masturbation de manière solitaire. Mmh. Ainsi, on peut envisager plusieurs aides techniques, par exemple. Il y a des milliards de sextoys qui sont juste adaptables tout à fait bien pour rendre les gens autonomes. Par contre, là où le bas blesse, c'est de croire que la vie amoureuse peut être compensée matériellement par une aide humaine, par exemple. Mmh. Et il y a d'abord la question du pourquoi. C'est-à-dire qu'au moment où on dit, eux, en les désignant, les personnes handicapées n'ont pas accès à la vie amoureuse, on pose la question du pourquoi. Alors on peut parler de solitude, d'enfermement en institution, ou de difficulté à avoir simplement une vie sociale. Mmh. Mais à ce moment-là, ça revient au même que, par exemple, pour les personnes emprisonnées, ou pour les personnes simplement dans un état de misère affective, pas besoin d'être handicapé pour vivre difficilement sa vie affective. Mmh. Et donc, dans ce cas, c'est le même problème et la même question que celle relative à l'utilité dans une société de la prostitution. Et mon travail ne s'intéresse pas du tout à ça. Je tiens juste à dire que promouvoir un accompagnement sexuel spécifique au handicap, c'est deux choses. Ça revient, d'après moi, à ne pas s'intéresser au niveau des professionnels, quels qu'ils soient, éducateurs, infirmiers, ergothérapeutes, etc. Ça revient à ne pas prendre en main la question de la vie affective. Et donc, par exemple, à continuer à interdire le fait que de résidence ensemble, interdire qu'un résident handicapé physique ait une relation avec un résident d'une autre institution. Par exemple, des problèmes mentaux. Comme un personnage, on parle très bien dans le documentaire de Jean-Michel Carré. C'est passé à la télé il y a 2 ou 3 mois. Bon, à mon avis, les professionnels ne se saisissent pas de cette question pour la régler de manière, je dirais, saine. Idem d'ailleurs pour les gens qui ne sont pas en institution et qui vivent chez leurs parents. La question de la vie affective ne se règle pas, d'après moi, par des professionnels, mais beaucoup plus par une ouverture et une indépendance de vie. Et en fin de compte, et c'est là, à mon avis, le mot le plus important dans cette histoire, c'est le mot prise de risque. C'est-à-dire que, d'après moi, la vie affective, même la vie sexuelle, et son intérêt, c'est avant tout une prise de risque. Cette prise de risque, on cherche absolument à la réduire dans le cas des personnes qui vivent en institution, et on la réduit encore lorsqu'on dit, très bien, on va régler le problème, on va trouver des professionnels, ils vont être là pour ça. Plus besoin que les personnes qui vivent au quotidien, les professionnels qui vivent au quotidien en institution, se posent la question de l'accès à la vie affective, plus besoin de se la poser, puisqu'il y a des gens qui vont venir de l'extérieur et qui vont pouvoir apporter, disons, je n'ai plus le terme, mais un espèce de simulacre là, de vie affective. Bon, voilà, c'est un peu... Voilà.
Je pense que tout ce que vous nous avez dit là est très intéressant. On arrive un peu au bout de notre heure d'émission, donc on va peut-être arrêter et on verra peut-être une autre fois, on donnera une autre forme à un tel débat qu'on pourra poursuivre. Vous vouliez dire quelques mots des musiciens aussi, il nous reste 2 minutes, on peut peut-être parler de ça, puis du devenir de votre document, quoi, ce que vous pensez qui doit devenir surtout.
Très bien, je vais rentrer dans les 2 minutes. Mmh. En fait, il y a... Donc, toutes les musiques, j'ai écrit la plupart des paroles, sauf le dernier morceau, qui a été écrit par le compositeur. Mmh. C'est donc un ami bordelais, avec qui je travaille depuis plusieurs projets, parce que je fais aussi du documentaire, donc cinéma. Et là, je lui ai proposé... Je connais un peu son travail et bon, je m'entends très bien avec lui et je suis très très content de ce qu'il m'a permis de faire sur cette fiction. Et comprends en prenant mes paroles, parfois un peu bordéliques, et en arrivant quand même à créer de la musique dessus et que ça rende très bien. Cette personne, John Corbeck, qui est à Bordeaux, ne travaille que en licence libre. C'est-à-dire que il travaille un peu seul, mais il n'accepte de déclarer aucun morceau. Je vais quand même me débrouiller pour qu'il y ait quand même une licence libre officielle, c'est-à-dire qu'on puisse l'utiliser à condition de donner son nom. Donc voilà, il travaille de manière seule, en faisant des projets en licence libre, ce qui fait que très très facilement, en moins d'un mois, on a pu travailler ensemble, enregistrer des musiques dans mon école, et sans poser de problème. Et c'est un peu aussi la logique de... Enfin, ça convient très bien à mon travail, puisque je n'aurais pas compris pourquoi un musicien veuille une déclaration de sa scène.
C'est pas une action commerciale.
Et le travail amateur n'est permis que par ça.
Ouais. Et sur le devenir du document, vous diriez quoi?
J'ai tenté de présenter à des festivals et je vais essayer d'organiser des débats. J'aurais aimé le diffuser dans des institutions certaines, y compris celles où j'ai habité pendant 3 ans, pour provoquer un débat, y compris avec des professionnels et usagers des institutions. Je n'ai pas particulièrement visé les personnes handicapées. J'ai essayé que ça parle à beaucoup de monde. je ne sais pas si je suis arrivé. Donc j'ai essayé des festivals et plusieurs institutions.
Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Le mot de la fin, peut-être, pour aujourd'hui.
Voilà, vous me prenez au dépourvu.
Non, mais il n'est pas nécessaire. Moi, je vous remercie de ce travail, qui est un beau document et qui n'est pas gratuit, enfin, qui les donne à réfléchir sur un sujet que souvent les gens évitent. Et là, vous l'abordez de plein front, on va dire. Hein,
je me rappelle du mot d'affin. Si oui. Il y a des auditeurs qui ont envie de me contacter, je suis complètement joignable. Et c'est ça que la radio pourra leur communiquer mon adresse mail.
Oui, c'est ça. Pour tout de suite à donner, si des auditeurs sont intéressés, on communiquera l'adresse de Rémi Gendarme. Et puis, ben, je vous remercie. On se quitte en écoutant un dernier morceau de musique de votre composition, comme les autres. Le titre en est
Hôpital, je pense.
Structure métal.
Oui. Un des morceaux que je n'ai pas utilisé.
Voilà.
Qui était prévu.
Bonsoir. Merci.
Bien.
Structure en métal qui craque et qui crie, sangle de cuir qui contraignent les chairs, 14 médecins courbés qui dévoraient son dos, et l'hôpital immense et Orphée tout petit, Orphée le mignon, Orphée le pauvre chéri, le petit Orphée si patient devant son calvaire, c'est grâce à lui que le monde tourne droit, vous l'auriez vu putain, il était tout tordu, on l'appelait l'équerre ou le paratonnerre, quand des tiges de métal lui transperçaient le dos. 14 médecins courbés qui dévoraient son dos. Et la structure immense et Orphée tout petit. Il n'est plus qu'un corps, il n'est plus qu'existence. Il va mourir, c'est sûr, étouffé par le plâtre. Mais la stagiaire kiné qui lui touche les cheveux, qui le regarde un peu, je veux dire dans les yeux. Dans ses yeux de tendresse, Orphée s'y engouffra. Et s'imaginant martyr, c'est pour elle qu'il se sacrifia. Sa jouissance était qu'elle le regarde souffrir. Et même cette petite larme fut son premier émoi. 14 médecins courbés qui dévoraient son dos. Et la structure immense et Orphée tout petit. Et ben voilà ma vieille, et ben voilà mon gars. Voilà le délire, c'est un truc de fou. Plus de sang de cuir qui gratèle ses membres. Direct de la science et descend aux enfers. À 28 ans venu, il se met à marcher. Et tout ce qu'il a construit, d'un seul coup il le perd.
Chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est distant, claque. C'est pas de la rengaine à gaver les enfants, pas des tubes que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est distant, claque. Mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance en 20 mètres de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y'a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redisent, ils noircissent le printemps, aucune chance qu'on les vise, mais on les claque. Thank you.
son enfant quand un humain s'enflamme, c'est pistant clair. C'est pas de la rengaine, la gavelise passant, pas des tubes que reprennent les gros guerres d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est pistant clair. Le printemps, qu'une chance qu'on les bise, mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance sans même être de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redisent, ils noircissent le printemps, qu'une chance qu'on les bise, mais on les claque. On se bise.